Yes. Bah moi j'avais envie de vous lire une petite nouvelle que j'ai lue un peu en diagonale ce matin, mais que je trouvais assez rigolote. Bon, ça va peut-être être un peu long, mais on va voir. Ça s'appelle L'aplatissement de la Terre. C'est une nouvelle inédite de Leslie Kaplan. Ça commence. Tout le monde s'en souvient. Ce matin-là, au réveil, la nouvelle tournait en boucle. Quelqu'un était tombé en dehors de la Terre. Pas d'un trou, pas d'une crevasse, pas d'un abîme, non. En dehors, à l'extérieur, au-delà. C'était la preuve matérielle, irréfutable, de ce qu'on observait déjà depuis un certain temps. La Terre n'était plus ronde, elle avait été aplatie. L'aplatissement était déjà bien avancé, et on était obligé de se demander jusqu'où ça irait. C'était certainement le résultat d'un processus complexe, quoique prévisible, annoncé par certains, traité bien entendu de pessimistes, de catastrophistes, etc. N'empêche, c'était là. Il y eut un mouvement de panique mondial et bien compréhensible. Les parents, surtout, étaient hystériques, se faisaient entendre dans les médias, complaisants, et sur tous les réseaux sociaux, parlaient à tort et à travers de leurs enfants, des dangers qui les menaçaient, moi le mien il court partout, moi le mien il casse-cou, tête en l'air, etc. Les gouvernements sonnèrent l'alarme et décrétèrent qu'ils prenaient toutes les mesures qui s'imposaient. Mais quelles mesures? D'abord des mesures simples, évidentes. On se mit d'accord pour faire construire un mur immense autour de la Terre. C'était la protection minimum et nécessaire avec, tout le long, des haut-parleurs gigantesques pour avertir que c'était la fin, le bout, l'extrémité. Malgré quelques protestations habituelles, sur le coup, les subventions furent votées et les constructions entreprises. L'économie des pays avancés qui possédaient la technologie en profita immédiatement. Les spécialistes prédirent que le mieux allait se répercuter partout et ont pu se réjouir de la situation quand le bâtiment va, tout va. Compétition, concurrence, toutes sortes de murs, murailles, barrières, grillages, concours, inventions diverses, attribution des marchés, grands travaux, entente internationale, guerre commerciale plus ou moins larvée. Dans la foulée se posa le problème du travail, de la main-d'œuvre, des salaires. Vu l'urgence, on était obligé de promettre et de signer des salaires élevés, disproportionnés, dirent certains. Oui, mais, du coup, et sans surprise, développement du travail clandestin, exploitation insensée, avec des situations parfois proches de l'esclavage. Ressurgissait la question du logement, les marchands de sommeil, les hôtels insalubres. Un cas parmi d'autres fit scandale. Un géant qui logeait, osez ce mot, 150 personnes dans une chambre de 20 mètres sur 19. Coaché par son avocat, j'ai investi dans les lits superposés de première qualité, je suis l'arbre qui cache la forêt. Quelle forêt? On ne suit pas. On relut la question du logement pour décréter qu'on en était au même point, et pire, la construction du mur mondial allait prendre du temps. En attendant, chaque pays mit en place un confinement relatif. Pour combien de temps, c'était difficile à dire, mais c'était nécessaire pour prévenir les accidents, les chutes dans le vide, voire les suicides. Organiser le pessimisme, le mot d'ordre fit fureur. Mais on perdait de vue les causes, les raisons, les origines de l'aplatissement, on tournait autour du pot. Il fallait pourtant s'attaquer aux racines du mal et répondre à la question angoissante. Était-ce irréversible et jusqu'où ça irait? C'était sans doute trop inquiétant pour qu'on garde le nez dessus. Parce qu'en fait, les causes étaient claires pour tous, personne ne contestait, unanimité. La Terre s'était aplatie, progressivement et de façon continue, par la masse énorme qui grandissait sans cesse et qu'on n'arrivait absolument pas à éliminer, dont on n'avait absolument pas à se défaire, de bêtises, stupidités, imbécillités, idées reçues, clichés, tautologies, discours vides, mots creux, bref, de platitudes, de termes. Le terme s'imposait, oui, de platitudes qui s'échangeaient à chaque instant et finissaient par avoir un effet. Et comment non? Les idées sont une force matérielle, c'était prouvé depuis longtemps. Ce qui n'était pas évident, mais alors pas du tout, c'était comment s'en sortir. Comment s'attaquer à cette masse lourde, compacte, dense, de bêtises. Une par une? Mais ça prendrait des siècles. Que faire? Le mot d'ordre de Lénine revenait, mais bien insuffisant devant l'ampleur de la catastrophe actuelle. Bien sûr, la bêtise existait depuis longtemps, et on se rappelait parfois avec nostalgie des phrases de personnages historiques haut placés, qui était passé à la postérité. L'emblématique que d'eau d'un président de la République, par ailleurs maréchal, planté devant une inondation dévastatrice, et de qui la population attendait une parole forte et consolatrice, était même devenu quelques années auparavant au moment d'une crue particulièrement féroce de la Garonne, un slogan, la bannière de ralliement d'un groupe d'extrémistes qui en voulait au pouvoir d'État et dénonçait l'incurie actuelle. Et le groupe Que d'eau fit beaucoup parler de lui pendant quelques semaines. Il y avait eu aussi la stupidité vulgaire de la fameuse Rolex, celle dont l'absence au poignet à 50 ans signifiait soi-disant qu'on avait raté sa vie, qui avait été le point de départ d'un vaste mouvement de contrefaçon un peu spécial parce qu'ouvertement brandi, revendiqué. Ce mouvement fut très difficile à arrêter malgré tous les contrôles, les erreurs gênantes. Mais si elle est vraie, regardez ces aiguilles, etc. Il faut dire que les fabricants vendeurs de fausses Rolex avaient trouvé un slogan approprié. Fausse, vraie, quelle importance, je l'aime. Mais là, ça dépassait une intervention circonstancielle de circonstances limitées. Tout le monde le sentait, plus ou moins confusément, ou au contraire, très clairement. Parce que là, ce qui se passait était en quelque sorte général, total, cosmique en somme. Il s'agissait de la Terre dans son entièreté. Ce qui était clair pour tous, c'est que toutes ces platitudes étaient en rapport avec, voire induites par, l'actuel système qui dominait le monde, qui n'avait pas l'air de s'affaiblir et qui avait imposé depuis longtemps une façon de penser simpliste, réductrice, binaire en somme, sur le modèle unique « j'achète, j'achète pas », devenu la base des échanges humains. J'aime, j'aime pas, oui, non, point final. Les gens se parlaient de moins en moins, se comprenaient mal, voire pas du tout. Certains mots n'étaient presque plus utilisés, le mot « expérience » par exemple. Est-ce à dire que les gens ne faisaient plus d'expérience ? Ils voyageaient beaucoup, mais parlaient surtout du bleu, du vert, du blanc, du sec, de l'humide, du chaud, du froid. C'était assez fastidieux, personne n'avait envie d'écouter les voyages des autres, ou alors pour les adresses. D'autres mots, au contraire, comme « gymnastique » étaient à toutes les sauces, physique et mentale, accent sur les muscles et les neurones. De nombreuses expressions tombaient en désuétude. C'est un grand enfant. Je rêve. Se battre pour survivre. Ces expressions n'étaient nullement bannies, mais simplement on ne comprenait pas où ça allait. On ne comprenait pas les implications, on ne comprenait pas du tout, tout simplement. L'éducation, un remplissage, un apprentissage de conduite, fallait-il préférer une tête bien faite ou une tête bien pleine ? Le débat était tranché depuis longtemps, accumulé. Aucun intérêt pour les différences. La différence sexuelle, n'en parlons pas. Un homme, une femme, ok, mais enfin, pas besoin d'en faire toute une affaire. Blocage. Aucune voie de la connaissance ne passait par là. Le sex-appeal disparut. D'ailleurs, pour les langues étrangères, les expressions importées, on ne faisait plus d'efforts. Si vous parliez d'un self-made man, votre interlocuteur vous regardait avec les yeux écarquillés, prise de tête, refus, les accents étaient honnis. Ce n'était pas qu'on était xénophobe, non. Mais tout de même, les petites déviations mènent aux grandes, alors bon. On aimait bien les choses, les objets, les tables basses, les fauteuils en cuir, les lampes, les décorations. On aimait bien meubler. L'utile pour être agréable. Mais la passion était mal vue. On aimait manger, même si on ne savait plus trop ce que ça voulait dire, mettre les petits plats dans les grands. Bon, on avait peut-être une petite coupure de texte. Mais je vais continuer. Bref. Plus question d'interpréter. L'interprétation, c'était vraiment vieux, démodé, dépassé. Si un tel tombait malade le jour du mariage de sa sœur, c'était qu'il avait toujours été fragile. Si une telle ne se rappelait plus pas d'un rendez-vous amoureux, c'était qu'elle avait trop de choses en tête. Un nouveau groupe radical émergea, le groupe Complexité. Revendication simple, quoique justement complexe, de la complexité. Le groupe rassembla quelques intellectuels, mais leur discours restait abstrait. De toute façon, la notion de jeu se perdait. Pourquoi jouer ? À quoi ça sert ? Le jeu semblait lié au détour, à l'écart, à la perte de temps, à quelque chose d'inutile. Alors que c'était tout de même plus intéressant, profitable, d'aller droit au but. L'expression « droite au but » devint même pendant un temps le slogan d'un parti politique. Droite, gauche, que d'embrouille, nous, c'est plus simple, c'est « droite au but ». Mais les enfants, est-ce qu'ils jouaient, les enfants? La question était plutôt « est-ce qu'ils existaient, les enfants ?» Ils étaient devenus ou redevenus des petits hommes. La notion d'enfant comme catégorie particulière était désormais controversée. Certains la qualifiaient de réactionnaire. Et l'enfance, une invention de psychologue. L'industrie du jouet était qualifiante de réactionnaire. Non, pardon. L'industrie du jouet était pourtant florissante. Mais les jouets et les jeux étaient conçus pour plaire d'abord aux parents. En même temps, les enfants étaient constamment évalués par rapport à leur développement, leurs connaissances, leurs capacités. Le fait est que l'évaluation était devenue une pratique générale qui s'était imposée dans tous les domaines, comme une méthode efficace, scientifique, juste. Résultats chiffrés, imparables. Le choix des critères suscitait parfois des discussions, des débats, mais on se mettait bien vite d'accord. On évaluait le pain, le beurre, tous les aliments, la pureté de l'air, la fatigue de l'eau, l'endurance, le goût, la souplesse physique et mentale. On évaluait. Chaque profession avait ses grilles, ses cases, et ses hommes politiques étaient eux aussi évalués au moment des élections. On était en démocratie tout de même, et qui plus est, autoritaire. L'art progressait, du moins les valeurs en bourse, de tous les objets d'art sans exception. La technologie prospérait, elle avait toujours prospéré, et elle continuait. Infinité de gadgets, de produits dérivés, de machines diverses. Ça aidait à faire passer la pilule de l'ennui. Parce que l'ennui était magistral, mais alors là, magistral. On le comprenait mal, on le constatait, c'est tout. Certains parlaient de mal du siècle. Mais on en était seulement au début de ce siècle. D'autres de crise de civilisation. Mais crise de civilisation, c'était vague, confus, intellectuel. D'autres encore, moins romantiques, essayaient d'analyser en quoi consistait cet ennui général. Manque d'élan, d'impulsion, de désir, sentiment que tout se vaut et présente peu d'intérêt. On parlait même pendant un temps du manque du manque. La formule venait d'un psychiatre et connut un certain succès. L'ennui devint un motif majeur en peinture, y compris dans les toiles abstraites. Ennui en bleu, en jaune, d'un artiste peu connu, fut vendu à un prix jugé ridicule, voire obscène par certains. Et il y eut des romans, des films, des pièces de théâtre sur le sujet. La publicité, toujours à la pointe, utilisa le thème de façon subliminale et la plupart des clips vantèrent un fromage, des chaussures ou une résidence secondaire d'un ton neutre, languide, traînant. En tout cas, absolument pas intéressé. Un roman plusieurs fois primé, La lassitude de la valse, eut pour cadre un grand château où un milliardaire célébrait son mariage et où les invités tournaient en rond dans le salon, les couloirs, les chambres, en bâillant. Les domestiques, les cuisiniers, les fournisseurs, les gens du village bâillaient aussi en travaillant, et la plupart des médias trouvèrent particulièrement audacieux, voire révolutionnaire, que le peuple soit ainsi représenté de la même façon que les puissants. D'autres jugèrent le roman naturaliste et critiquèrent son manque d'idéal. Au théâtre, la mise en scène d'une pièce d'un auteur à succès, « Ennui, mon beau souci », attira un public de plus en plus nombreux, qui connaissait les répliques par cœur et les anticipait en hurlant. On put s'interroger si c'était encore du théâtre, mais cette question revint toujours quand quelque chose d'inédit se produit et on devait reconnaître que l'auteur avait imaginé des dialogues tout à fait pertinents. « Je t'aime, tu m'ennuies, je t'ennuie, mais je t'aime. » Des sociologues soulignèrent que tout ça n'était pas à proprement parler nouveau, mais ajoutaient que l'ennui était auparavant réservé aux élites. La classe populaire était trop occupée à trimer pour s'ennuyer. Les contempteurs habituels de la démocratie trouvaient leur compte dans cette analyse. Voyez le beau résultat de votre système, tout le monde a droit à l'ennui. Mais la mauvaise foi était patente. La lutte de classe était bien entendu tombée en désuétude. Déjà le mot classe, clairement connoté, était rejeté depuis longtemps. Déplaisant, désagréable, il sonnait mal. Un groupe de musiciens dans le vent, les Talons Rouges, avait produit une chanson devenue instantanément un tube mondial. Classe, classe, classe et reclasse. On ne veut pas être classé, ni toujours compartimenté, ni mis dans une boîte, c'est terminé, rien de ça, rien de tout ça, vive la liberté. Bref, conflit était synonyme d'agitation. On valorisait l'entreprise, l'énergie, la persévérance, la continuité, l'accord. Mais est-ce qu'il y avait des désaccords? Des luttes, des revendications, des problèmes, des questions? Les gens se fâchaient, c'est vrai, éprouvaient du désagrément, trouvait ceci ou cela pénible, ceci un produit indisponible, cela une malfaçon. En fait, la hargne et l'agressivité étaient dirigées d'abord contre les choses. Après, bien sûr, on remontait à la production et aux producteurs, mais c'était rare et dans un deuxième temps. Les thèmes politiques étaient nombreux, variés, allant de la pénurie des transports publics, des hôpitaux, des écoles, à l'écart des fortunes, l'injustice, de l'impôt. Mais ils étaient, ces thèmes, usés jusqu'à la corde, voilà. Cela ne voulait pas dire que la réalité n'était pas celle-là, mais on avait l'impression que ces constats étaient redondants, qu'on faisait du surplace. Des nouvelles théories fleurirent. En histoire, théorie du fruit mûr, il finit toujours par tomber. La Révolution française illustrait cette théorie. On l'aimait pour ça, il fallait qu'elle ait lieu. Elle avait eu lieu et maintenant, c'était fait, très bien, merci. En psychologie, la théorie de l'emboîtement sexuel. Vous comprenez pas, c'est pourtant clair. On expliquait le mal-être par des tensions inévitables entre l'intérêt bien compris et la passion irrationnelle. Il y eut une vague de paralysie qui frappèrent le pays, les femmes surtout. On catalogua les paralysies, paralysie du bras, de la chambre, de la jambe, du cou, et on appliqua sur la suggestion d'un professeur émérite des systèmes de redressement, des corsets, etc. Des femmes malades se révoltèrent, exigèrent du soin, de l'écoute, du rêve. Ce mot d'ordre eut un grand succès, même si un médecin biologiste célèbre, connu pour ses comportements sexistes à l'hôpital, les traita partout d'hystériques, dans la presse et sur les ondes, et expliqua avec vaillance et arrogance que le rêve était une inflammation de la cervelle. Mais l'époque n'était pas à la polémique. Quelques intellectuels imminents protestèrent, avancèrent qu'on était en pleine régression générale. Des articles furent publiés. Un appel collectif, peut-être maladroit, était intitulé « La vérité divise », fut lancé, mais personne ne s'y intéressa vraiment. Et il tomba à plat. Comment ça se termina ? Eh bien, ça ne se termina pas. On y est encore. Voilà. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Mais...
Enfin, on peut ouvrir les micros.
On peut ouvrir les micros.
Ouverture des micros.
Voilà, c'est un point de vue de l'esprit du plan.
L'ennui, c'était un thème qui avait été pris dans les années 70. Je sais plus, il y avait Van Egem là, qui parlait de l'ennui en disant... On troque la certitude de mourir d'ennui contre le risque de vivre ou un truc comme ça, je sais plus. Je sais plus.
Attends, mais du coup, on a compris.
Dans le fait d'accéder à la propriété, d'avoir un travail, etc. Tout bien compartimenté avec les loisirs et tout ça. Tout qui rentre dans les cases, quoi.
Mm-hmm.
Je crois, hein, mais alors bon. Mais sauf que maintenant, c'est plus l'ennui, c'est l'anxiété.
Oui, c'est vrai.
Un des affects du capitalisme. Et du coup, ça c'est pas décrit dans la nouvelle, mais j'ai l'impression qu'on pourrait... plus maintenant parler d'anxiété,
ouais,
je pense, je sais ouais. pas. Parce que justement, on est assailli de... On n'est plus dans les problématiques où tout est disponible en abondance. Enfin, si, quand même, en fait. Non.
Bah, peut-être
que
je dis n'importe quoi.
Ça dépend pour qui.
Ça dépend où tu te situes.
Mais ouais. C'est vrai que l'anxiété a pris une grande place. Quand
même. En tout cas, dans le contexte actuel, c'est un peu c'est exacerbé, disons.
Ouais.
Je trouvais des passages drôles et des passages qui me choquaient un peu, au fait, mm-hmm. mais faudrait que je relise.
Ouais, ben moi aussi, hein, parce que je l'ai lu en diagonale tout à l'heure, mais du coup, on le lit aussi.
Et qui, enfin, Leslie Kaplan, c'est...
C'est une... je sais pas très bien, moi, c'est une autrice, mais j'avais juste lu un petit bouquin d'elle que j'avais dans mes toilettes qui s'appelle Désordre, c'était assez rigolo, où elle parle, dit, c'est le 1er mai et y a une, elle fait une fausse, des faux faits divers. Du coup, il y a un peu partout des gens qui tuent leur maître, en fait. Bon, après, elle raconte l'histoire d'une femme de ménage qui tue sa patronne. J'avais juste lu ça d'elle. C'est assez décalé, rigolo. Mais après, j'en sais pas plus sur ce qu'elle fait. Ouais, c'est des trucs un peu un peu décalé, mais c'est vrai que parfois, moi, je ne sais pas trop comment l'interpréter, ce qu'elle dit.
Et en parlant de lecture, nous, justement, on cherche un bouquin, plutôt. Enfin, moi, je cherche un bouquin qui serait intéressant à lire dans le contexte présent. C'est Aveuglement de Saramago. Si vous avez ça qui traîne dans votre bibliothèque...
Vous pouvez pas nous passer parce que vous savez pas où on est.
Ouais, c'est ça.
Enregistrons une version audio.
En tout cas, lisez-le.
Pour vous protéger et protéger les autres, arrêtez les embrassades, sauf munis d'une attestation dans les cas suivants: faire garder ses enfants ou aider des personnes vulnérables, puis jeter-les. Toussez ou éternuez dans votre coude à usage unique ou sur gouvernement.fr, puis jetez-les. Faire des courses de première nécessité, puis jetez-les. Lavez-vous très régulièrement les mains chez un professionnel de santé, puis jetez-les. Dans tous les cas, jetez-les. Tout déplacement est interdit avec du savon, ou dans un mouchoir, ou sur gouvernement.fr. Restez chez vous, allez travailler ou utilisez une solution hydroalcoolique. Si vous n'avez pas de signe de la maladie, respectez un mètre de distance avec les gestes barrières et appliquez systématiquement les embrassades avec toute personne professionnelle de santé si le télétravail est impossible. Saluez sans serrer la main les gestes barrières au 0800 130 30 0800 000 000 000. Plus d'informations au ministère chargé des mouchoirs à usage unique et de la maladie. Ceci est un message dans votre coude du coronavirus et de 00. Dans tous les cas, arrêtez les gouvernements à usage unique, jetez-les.
C'était l'histoire d'un taureau qui pétait et il était très gentil parce qu'il tuait tous ceux qui nous énervaient. On commence.
C'était Le taureau qui fonce avec NE2X à la voix, Man à la caisse à outils et à la trompette et Bob à la guitare.
Tiens, voilà la pluie. Ah, qu'est-ce que ça le temps ? Où est-il l'été ? L'été, où est-il ?
Oh là, mais que vois-je apparaître en regardant à ma fenêtre ? Là, cette dame qui vole en voile de nylon et qui tient un bâton tout plein rempli d'étoiles. Si cette dame est flic, l'est au moins générale.
Non, mon enfant, je suis la fée.
Ah, bonjour, madame la fée.
Mon Dieu, qu'il ait bien élevé cet enfant. Je veux le récompenser. Que voudrais-tu ? Formule un souhait, j'ai le pouvoir de l'exaucer.
Vrai ?
Vrai ?
Ben je voudrais qu'on se paie du bon temps.
Du bon temps ?
Du bon temps.
Qu'entends-tu par là, mon enfant ?
Ben, je voudrais avancer l'été. Qu'il fasse avant la Saint-Jambon.
Jambon.
Qu'il fasse beau dès le 10 juin.
10 juin.
Ça serait bien s'il faisait beau d'aimer.
C'est beau d'aimer.
Et que cesse enfin cette pluie. Où est-il était, l'été ouéti? Où est-il était, l'été ouéti? Qu'il fasse chaud des méchouis.
Méchoui.
Puis qu'il fasse beau des paquebots.
Paquebots.
Que le soleil tape en marteau.
Marteau.
ça serait bien qu'il fasse des libertos.
Des libertos.
Et que cesse enfin cette pluie. Où est-il été, l'été où est-il? Où est-il été, l'été où est-il? Si de plus un climat chaussette,
ma chaussette,
cette année dès l'automne lié, tous les étés les uns aux autres, ça serait le genre de temps qu'on bénit. Surtout qu'il n'y aurait plus cette pluie. Où est-il été, l'été où est-il? Où est-il été, l'été où est-il?
Mon enfant ne soit pas saltant.
Saltant.
Ton joli souhait m'a beaucoup plu.
Beaucoup plus.
Et je vais pouvoir l'exaucer.
Saucer.
Oui, je peux, oui, ce pouvoir, je l'ai. Abracadabra, c'est ce pluie. Soleil d'été resplendit.
Oh, miracle, un astre éclatant irradie rose au firmament. Ah, dis donc, elle a fier papa. C'est madame la fée qui a fait ça.
Alors,
oh oui, madame la fée.
Charmante enfant.
Merci, madame la fée.
Et c'est poli, adieu, mon enfant.
Au revoir, madame la fée.
Charmant.
Et le bonjour à monsieur la fée.
Crétin, tiens.
C'était Bobby Lapointe, une classe dédiée à Légumane, t'as vu.
La pluie.
Le morceau, je crois que s'appelle La Fée.
Bon, 39,9, c'est juste une question de température.
Eh bien, sans transition, on va enchaîner avec une autre lecture, pour changer. D'un texte que nous avons reçu par mail et qui s'appelle « Le déconfinement qui vient pas ». Six mois de tôle si on te chope à te promener plus de trois fois sans justification. Durée légale du travail hebdomadaire rallongée à 48 heures, voire à 60 dans certains secteurs. Flic prévenu par un voisin parce qu'il t'a vu monter sur une colline. Appel aux demandeurs et demandeuses d'asile à travailler dans les champs le temps de l'arrêt obligé de la machine à expulser. Verbalisation par drone dans des villes et sur des plages. Pack de PQ qui prend la place du gilet jaune sur le pare-brise. Signe ostentatoire d'achat de première nécessité à chaque sortie. Pensionnaire des EHPAD condamné à mourir seul. Désocialisation obligatoire. Interdiction de te rendre à un enterrement. Numérisation intégrale de l'enseignement. Enfin, qui ne font plus la différence entre un sketch de Norman et celui de leur prof. Isolement total pour toutes les prisonnières. Trouille de croiser les flics à chaque carrefour. Crieur public au chômage, travail du sexe définitivement prohibé. Marché sauvage oublié, théâtre de rue changé en télétravail. Tag pas lu, affiche pas collée. Silence des rues vides. Plus d'un dehors, plus de ailleurs. La liberté, tu peux encore t'autoriser toi-même à acheter des chips. Il y a un mois, ce qu'il nous reste aujourd'hui de vie serait passé pour un cauchemar irréaliste. Passé 15 jours, on dirait bien qu'on s'y est fait. Chacun et chacune à sa manière. Tout le monde n'a pas de jardin à cultiver ni de chambre perso à ranger, parce que celle-ci est aussi celle d'un conjoint violent. Tout le monde ne maîtrise pas le yoga au point de ne pas penser aux factures à payer. Tout le monde n'arrive pas à se recentrer sur soi ou à lire, à sombrer dans Netflix, la réalité virtuelle ou des théories de complot. Des gosses piaillent, des parents crient, des colocs se disputent, des amoureuses ne se supportent plus. Tout le monde n'a pas de résidence à laquelle s'assigner. Beaucoup doivent dealer avec l'ordre contradictoire du travail et reste chez toi. Faut bien des petites mains pour emballer sextoys et DVD chez Amazon, pour faire marcher les hôpitaux agonisants, pour faire tourner des entreprises indispensables à la survie de l'économie, pour fournir les supermarchés, pour biper les achats et encaisser l'argent. La crise menace, mais des rouages tournent encore. Les marchandises venant de loin franchissent sans peine les frontières verrouillées à triple tour. L'enfermement, la répression paye, l'apathie gagne. L'état d'exception fait de l'état partout la règle. Démocratie libérale ou populisme dirigiste, même combat. Le spectacle de l'urgence paralyse. Celui de la difficulté de sa gestion fait de la soumission un valeureux effort de groupe. L'effort de guerre, l'union sacrée, et ce relent nationaliste appelle les cœurs à vibrer à l'unisson. Comme pour le foot, on a mal joué, mais on se rattrapera. Et si l'État échoue à garantir la sécurité face au virus, c'est parce que des irresponsables défient les règles du confinement. Reste héroïquement chez toi, obéis à n'importe quoi par sens du devoir et par conscience citoyenne. Et il y a encore un mince espoir. Peut-être que le confinement est accepté parce que beaucoup de gens prennent au sérieux le risque d'en contaminer d'autres. Beaucoup parlent d'un après, de cet après qu'on prépare, celui où on n'oubliera rien, même si on doit faire face aux innombrables problèmes du retour à la normale. Mais s'il n'y avait pas d'après, si c'est le confinement qui devenait la norme, si le déconfinement était partiel et temporaire, les mesures coercitives se durcissant à chaque reconfinement, pardon, au nom des crises multiples qui agitent déjà autant d'épées de Damoclès, crash du système bancaire, famine, accident industriel, cataclysme dit naturel, tensions diplomatiques, exode urbain, exil de masse, ou encore s'il était conditionné par notre soumission totale à la vaccination obligatoire quand il y aura un vaccin, au dépistage forcé, à la géolocalisation imposée de tous nos déplacements, à la transparence absolue de nos vies. Les états d'exception ont une fâcheuse tendance à durer. Pourquoi au juste reviendrait-on en arrière? Et si le déconfinement sur mesure était celui du travail forcé pour rétablir l'économie en peine, des tiges pour les minima sociaux, de l'esclavage pour les tolards et les migrantes? La situation actuelle était inimaginable. Il y a désormais bien peu de choses qu'on ne puisse plus imaginer. À moins que le confinement ne devienne une école de l'illégalisme et de la débrouille pour les personnes que ces pratiques choquaient il y a encore pas si longtemps. Une occasion de lâcher nos grelots téléphoniques face à l'insupportable visibilité qu'ils offrent au contrôle sur nos vies. Un temps utilisé pour trouver des idées, pour prendre du courage, pour constater que si certaines ont encore quelque chose à perdre, d'autres n'ont déjà plus rien. Pour découvrir qu'il y a des choses plus abjectes que la mort, pour s'organiser face à la répression, pour arrêter définitivement le travail, pour arrêter d'attendre l'après, pour profiter des occasions qu'ouvre la situation d'exception, pour aider à faire tomber ceux qui chancellent, pour cultiver nos colères. Si l'État nous assène que l'État, c'est nous, pourquoi ne pas le priver, lui, de respirateurs artificiels? Préservons nos liens, multiplions-les, remplaçons les caisses de grève et d'antirépression avec les derniers sous qu'il nous reste. Ce sera toujours ça de pas pris par les amendes. Parlons-nous, partageons nos espaces sûrs, nous ne lâchons pas.